Philippe, tu voulais réagir sur un sujet ?
Oui, mais c'était plus sur les généralités politiques, oui. Avant qu'on recentre sur le local. Je trouve que les choses sont encore en train de changer. Là. Il y a une dizaine d'années, Emmanuel Macron a mis tout par terre. Mmh. La droite l'a bien ressenti, la gauche pareil. Et là, je trouve qu'on revient d'ici un an ou deux à quelque chose qui va être encore bien différent. Pourquoi ? Parce que Macron, même Gérard Larcher l'a dit, le macronisme, c'est terminé.
Ouais.
Et je pense que c'est vrai, puisqu'il y avait un homme avec derrière d'autres hommes, mais il y avait vraiment lui.
Ouais.
Et à partir du moment où il va prendre sa retraite, comme toi, Thierry, bientôt, eh bien, le macronisme va disparaître. Ça veut dire quoi ? Enfin, c'est mon analyse. Hein. Retailleau, qui devient président du LR, je trouve que c'est quand même un signe. C'est-à-dire qu'il y a quand même à droite, il y a une droite un peu entre guillemets dur, des gens qui ont envie de réaction par rapport à une situation nationale qui se dégrade de plus en plus. Alors ça va pas, c'est un électorat qui peut aller vers le Rassemblement National, il y va, il ira sûrement aux prochaines élections.
2027.
Mais je pense qu'il y a une partie de la droite des LR qui se recentre, c'est peut-être pas le mot à utiliser, autour de Bruno Retailleau qui a ce discours un peu dur,
ouais.
Un peu maintenant ça suffit. Et je pense que les choses sont encore en train de changer. Je pense que la droite va encore bouger
non, parce que,
par rapport à ça.
Si je peux rebondir là-dessus, déjà Bruno Retailleau, il a absolument raison de dire que quand on est de droite, on ne doit pas s'excuser. Voilà. Bon, ouais. C'est pour ça que je suis honnêtement très heureux que tu aies repris cet extrait qui date de 2017.
Ouais.
Je précise la date parce que je pense pareil aujourd'hui. Bon, il ne faut pas s'excuser à un moment de défendre des éléments aussi simples que notre pays doit être souverain et notre pays a le droit à un moment de maîtriser qui rentre dans notre pays. Voilà, bon. Et il porte ce discours-là, je crois qu'il a raison. Bon. Et si la droite a été dépassée à un moment par l'extrême droite, c'est parce que, tout simplement, elle n'assumait pas, ce qu'elle pensait. Et je crois que c'est mauvais pour la démocratie. Je voudrais revenir sur deux points très simples et très rapidement. D'une part, ce qu'a dit le président du Sénat, Gérard Larcher, c'était très précisément que une seule personne a survécu à lui-même, c'est le général de Gaulle. Et que personne ne peut s'en prétendre. Il a d'ailleurs en cela tout à fait raison, parce que le mitterrandisme n'a pas survécu à Mitterrand non plus, et c'est ainsi. Et d'ailleurs, je crois que c'est tant mieux pour l'histoire de France que seul le gaullisme ait survécu. La deuxième des choses, c'est qu'il faut se souvenir du pari initial d'Emmanuel Macron. À l'époque, tout le monde disait « Mais pourquoi ils ne travaillent pas ensemble, tous ces gens-là » Bon. Et il faut se souvenir qu'en 2017, une grande partie des Français pensaient qu'il avait raison, finalement, de dépasser ces clivages. Parce que toute bonne partie des Français pensaient que finalement, à l'Assemblée nationale, les socialistes, l'UMP, ils se tapaient dessus, mais enfin, ils pensaient à peu près tous pareil. Ce que, je pense, Emmanuel Macron avait largement sous-estimé. D'une part, à mon avis, il a fait une grande erreur, c'est de casser les strates intermédiaires. Et je crois que ça, d'ailleurs peut-être lié aussi à la fin du cumul des mandats.
Tu reviens au niveau des maires.
Polémique. Non, regardez, regardez aujourd'hui, les strates intermédiaires de notre pays sont plus reconnues. Les parlementaires dans beaucoup de circonscriptions, les gens ne savent pas qui c'est.
Oui, oui, oui.
Et ça c'est très dommage. Regardez, il y a un élément qui m'avait frappé au moment de la crise agricole. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an.
Un an et demi.
Le président de la République avait demandé à tous les préfets pendant le week-end d'aller à la rencontre des jeunes agriculteurs. Ben, ça m'avait fait sourire parce que je me disais mais on serait 20 ans avant avec Chirac, il aurait demandé aux députés de retourner FISA dans la circonscription pour aller voir les jeunes agriculteurs, pas les préfets, alors que les JA justement, ils manifestaient contre les normes de l'État, contre la DREAL, et ça c'était extraordinaire. Donc cette strate intermédiaire elle manque, d'ailleurs c'est tragique parce que tout retombe sur les maires, parce que les gens ils savent qui c'est le maire. Mais si vous saviez le nombre de gens dans nos mairies qui viennent nous voir pour des sujets qui ne relèvent pas de nous. Et donc, finalement, là, on voit bien qu'on a fait une erreur depuis de nombreuses années parce qu'on a un peu cassé les services publics locaux. Et je crois que c'est bien dommage. Regardez, les gendarmeries, elles ferment. Le service d'impôt aux entreprises, il est en brin, il n'est plus à Briançon. Les gens, ils ne comprennent pas. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça m'amène à penser que ce que nous avions sous-estimé, c'est que ces sujets qui ont fortement déplu aux Français ont participé de faire monter les extrêmes. Et personne n'avait pu prévoir que les extrêmes prendraient d'une part une telle ampleur et surtout que l'extrême gauche deviendrait ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire un parti quasiment anarchiste, presque anti-républicain et sous certains aspects antisémite. Et que malheureusement, un extrême entraînant l'autre, ça a entraîné un affaiblissement de ce qu'on appelle le bloc central, et qui est fort dommageable, puisque moi je suis honnêtement apeuré par ce qui est devenu la France insoumise et ce qui est devenu une partie de la gauche, qui me fait peur, parce que honnêtement je me dis, mais Ces gens-là veulent abattre ce qui fait notre nation, ce qui fait société. Et donc tout cela doit nous poser, faire nous poser les bonnes questions pour 2025. Je te rejoins, je pense qu'on va revenir à un clivage traditionnel parce que beaucoup de Français ont peur de ces extrêmes.
Bah, je pense que le PS pourrait peut-être renaître de ses cendres s'il commence à réfléchir sérieusement à s'éloigner de...
Là, le problème, c'est que dans la même phrase, tu as mis réfléchir et PS. Alors il faut faire attention quand même. Quand on est
comme ça, Philippe, ancien PS. Non, parce que Philippe, il a quand même voté Ségolène Royal.
Oui, oui, dire, on le sait. Mais tu as raison de le rappeler. Tu as raison de le rappeler. Ça, il est mal à l'aise maintenant avec tout ça.
Le PS, non, mais plus le PS. Pour revenir ou pas?
Mais non.
Ça dépend, parce que faut pas non plus. Raphaël Glucksmann, par exemple.
Oui, mais c'est pas un PS, bah, Raphaël Glucksmann.
Il se revendique de la gauche.
Il se revendique de la gauche.
Et il est absolument contre la France insoumise, et il a bien raison, parce que c'est ce que disait. De toute façon, quand on s'appelle insoumis, on peut pas diriger, puisque par définition, on est insoumis à tout et on est contre tout. On est anarchiste. Donc c'est le problème.
Un mot non.
Non, mais je vais revenir après sur la politique locale qui s'est quand même grandement apaisée sur Briançon, et ça c'est très bien, et qui s'est apaisée aussi dans les communes voisines. Je trouve qu'on est dans un moment de calme, d'autant plus que les gens sont très attachés au maire, on le voit, et qu'il suffit de demander aux gens, y compris ici, quel est le nom de votre député, de votre sénateur, pour dire je sais plus.
Je te remercie de le noter, j'y suis extrêmement sensible, puisque quand nous avons été élus en 2020 à la communauté de communes du Briançonnais, réunis l'ensemble des amis qui forment maintenant ma majorité, à la CCB ça s'est à nouveau élargi aussi, puisque même avec quelques maires avec qui... c'était compliqué en début de mandat. Finalement, les choses se sont beaucoup apaisées. Et je trouve que nous allons dans le même sens et c'est une très bonne chose. Nous avions fait un pari et je leur avais dit la chose suivante. Écoutez, je crois que les habitants de nos communes n'en peuvent plus de lire nos désaccords dans le Dauphiné libéré. Voilà. Donc ce que je vous propose, on va faire très simple. D'une part, on va essayer de se mettre d'accord sur l'essentiel. Et puis sur le reste, on aura des désaccords. Forcément, on s'opposera, mais on va le faire en fermant la porte. Et quand on sortira tous, on essaiera d'être à peu près d'accord, ou en tout cas de faire en sorte que ça donne une bonne image. Et vous noterez qu'il n'y a pas eu une seule polémique depuis le début de la mandature au niveau intercommunal sur des sujets de fond. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose, parce que je voulais que cette mandature serve à avancer sur des dossiers structurants. Et je crois que sur un certain nombre de sujets intercommunaux, ça a été le cas. Et c'est essentiel parce qu'on sous-estime beaucoup le poids de l'intercommunalité aujourd'hui et des dossiers structurants à l'échelle de nos vallées finalement.
On va parler... Tu avais un truc ?
Non. Oh non, mais je reviendrai quand vous
voulez. D'accord.
Ah, oh ben non, je fonce, tiens. Arnaud nous a permis. Je suis père d'un géographe et j'ai été très... Je reviens sur la politique locale.
Hein, on est dedans.
Voilà. On revient... Étant père d'un géographe, j'ai été surpris par la perte du nombre d'habitants sur la ville de Briançon, de l'ordre de 1700 habitants. Pourquoi un tel recul? D'autant que ce recul n'a pas été compensé comme les autres fois par les communes voisines qui remontaient un peu le nombre quand Briançon faiblissait. Ça n'a pas été le cas dans la vallée, qui enregistre au mieux une stagnation, voire une très légère perte. Donc question, pourquoi un tel recul? Et deuxième question, où en sommes-nous aujourd'hui?
Alors, soyons précis, parce que les chiffres que tu donnes sont sur une période qui est très longue.
Oui, oui, parce que mille et quelques, c'est pas sur un an. Hein.
Non, c'est pas
sur un an. Non, on est d'accord.
C'est sur une période qui démarre en réalité au moment où l'armée a quitté le Briançonnais, c'est le point de départ. Bon. Les chiffres sont intéressants. Vous savez que l'INSEE fait son recensement sur une période antérieure. Hein, donc en réalité, on a toujours du décalage on a les chiffres. Bon. Sur la période, grosso modo, de 2010 à 2020, on perd à peu près 500 habitants. Et ce qui est très intéressant, c'est de prendre les chiffres à l'époque de Pôle emploi, maintenant France Travail, puisque dans la même période, on perd 500 habitants, mais on perd 500 emplois, principalement dans le commerce. J'ai toujours lié ces deux chiffres parce qu'il me semble essentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de construire de logements pour qu'il y ait des habitants, c'est faux. D'autre part, il ne faut pas que ces chiffres-là nous mènent à faire les mauvais diagnostics, parce que ce sont des situations extrêmement complexes. Alors, de manière assez démagogique ou populaire dans tous les territoires touristiques aujourd'hui. On dit globalement, bah, c'est simple, l'immobilier coûte trop cher, il y a Airbnb, point, fermer le banc, c'est pour ça qu'on perd. Bon. Alors, il y a une petite partie de vérité dans certains territoires plus que d'autres. Je prends un exemple très simple. Souvent on dit, bah, regardez, à Chamonix, ils ont interdit les résidences secondaires maintenant dans leur PLU. La situation n'est pas la même. Hein. Chamonix, c'est 70% de résidences secondaires dans leur base fiscale. Briançon, c'est 29%. Donc, faut pas comprendre. C'est de la même manière qu'on ne pourrait pas comparer Sifour-les-Plages et Saint-Tropez. C'est pas exactement la même chose. Donc, il faut faire très attention. Ce sont des sujets qui sont complexes et qui, vraiment, selon l'histoire de la commune, n'est pas la même. D'ailleurs, Briançon, c'est une histoire très particulière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une station de ski uniquement, et nous ne sommes encore moins une station de ski qui a été construite par le plan neige. C'est-à-dire qu'en réalité, Briançon, son histoire, elle rime avec PLM et l'histoire du rail au 19e siècle, avec les sanatoriums. Et donc, nous sommes une ville, nous avons été un territoire qui a existé, qui s'est construit avec aussi une histoire paysanne et agricole, avant d'être lié au tourisme hivernal. Bon. Et donc, partant de là, notre sujet aujourd'hui, me semble-t-il, est le suivant. D'une part, on a une hausse des prix de l'immobilier qui est importante et qui pénalise les locaux, mais qui, quelque part, nous apporte aussi de la richesse, parce que bah, c'est aussi un indicateur que notre territoire, il est attractif. S'il est attractif, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent nous voir l'été et l'hiver, ça veut dire qu'il y a des commerçants et des hôteliers, et tout le monde lié au tourisme qui vivent. Tant mieux. Bon. Mais tout ça n'est pas sans créer de problème. La deuxième des choses, c'est que on est aujourd'hui rentré dans un monde dans lequel on essaie de se préoccuper enfin de l'environnement. Et donc toutes les communes, dont Briançon, dont toutes les communes de Briançon, viennent d'adopter, sont en train ou viennent d'adopter des nouveaux PLU, des plans locaux d'urbanisme, dans lequel on applique la loi avec le fameux ZAN, le zéro artificialisation net, qui oblige aujourd'hui toutes les communes à diviser le foncier constructible par deux. Ce que nous avons fait à Briançon, et d'ailleurs on a adopté le PLU à l'unanimité. Mais aujourd'hui, la réalité est de dire que, par la force des choses, quand vous supprimez du foncier constructible, ben vous avez encore moins de capacité à construire du logement. Donc, cette raréfaction du foncier entraîne et participe de la hausse des prix de l'immobilier, puisque ben moins il y en a, ben plus il devient cher. C'est l'offre et la demande, c'est assez classique. Donc, paradoxalement, en protégeant l'environnement, et moi je pense que c'est une bonne chose, parce qu'entre vous et moi, on ne peut pas construire toujours plus loin. Nous, ce que nous avons fait dans le PLU actuel, qui vient d'être adopté, qui est en cours d'enquête publique, c'est qu'on a limité la constructabilité à l'enveloppe urbaine déjà existante. Concrètement, on dit, ben voilà, là où il y avait de la forêt, des espaces naturels, ben on n'ira pas construire. S'il y a des espaces qui ne sont pas construits au milieu de la ville, dans certains quartiers, on peut, en dehors, parce qu'on ne veut pas que les villes continuent à s'étendre, sinon, dans 10 ans, dans 15 ans, on construira à 2500 mètres d'altitude, et personne ne le souhaite, on veut préserver cet environnement-là. Bon. Donc toutes ces causes-là, elles sont diverses. Aujourd'hui, elles m'amènent, moi, à mettre en place plusieurs leviers. Je voudrais les détailler assez rapidement, mais c'est très important. On a déjà activé le levier fiscal. À mon initiative, j'ai obtenu de Bruno Le Maire, il y a maintenant 2 ans, quand il était ministre de l'Économie et des Finances, que l'ensemble des communes du Briançonnais, dont la ville de Briançon, soit inscrite sur la liste des communes en tension pour le logement et des communes touristiques. Nous ne l'étions pas. Ça nous a permis d'obtenir la capacité à mettre en place la taxe sur les logements vacants, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires majorées. Pourquoi j'ai fait ça? Il y a un logement vacant sur 10 à Briançon. C'est énorme. C'est énorme. Plus de 900 000 logements qui sont vacants pour à peu près 9 000 logements en ville. Ça, c'est énorme. Alors, on le doit au programme de défiscalisation des années 70-80 qui ont fait qu'un certain nombre de logements sont perdus dans l'oubli des successions des indivisions. Et on le doit à certains quartiers qui sont plus historiques et donc qui ont plus de dégradation dans leur foncier que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Un logement qui est considéré comme vacant, la première année, il est taxé à 17% de la reconstitution des loyers sur 12 mois. La deuxième année, 34%. Donc, c'est très dissuasif. Ça va encourager, c'est en place depuis cette année, les gens la payent depuis cette année. Ça va encourager, je l'espère, les propriétaires à dire bon ben soit je vends à quelqu'un qui en aura besoin, qui le rénovera, qui le mettra sur le marché, soit je rénove moi-même et je le remets sur le marché parce que ça me coûte plus cher de le conserver en l'état. Parallèlement, on a mis en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat parce qu'on est labellisé Action Cœur de Ville et donc on met 400 000 euros sur la table pour aider justement les propriétaires à rénover aux normes thermiques et dans une optique de développement durable. Ça, c'est absolument majeur parce qu'en réalité, on a déjà 900 logements qu'on pourrait remettre sur le marché, qui pourrait répondre à cette problématique de l'habitat. Deuxième chose, sur les grosses opérations comme la réhabilitation des sanatoriums de Rhône-Azur, c'est pas neutre, hein, 25 mm², j'ai imposé 40% de logements en accession à la propriété. Donc il y aura 60%, ce sera de la réhabilitation, le site est classé, je l'ai fait inscrire aux monuments historiques qui seront réhabilités en Malraux. C'est pas déconnant, hein, le Malraux, pendant plus de 10 ans, vous avez obligation de louer et à tarif modéré. Et les 40% d'autres, ce sera des programmes d'accession à la propriété. Je m'explique, l'accession à la propriété, c'est simple. Ça peut être par exemple de la location-achat, c'est-à-dire en gros vous rentrez locataire à un tarif qui est bloqué, par exemple vous achetez à 700 euros par mois, et si 10 ans après vous voulez acheter, le prix d'achat sera celui du moment où vous êtes entré, donc celui de 10 ans avant. Et pendant ce temps, on va vous aider à capitaliser, à bénéficier de prêts à taux zéro, pour que vous puissiez acheter le logement que vous avez loué. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement favorable. Dans le PLU, on a bloqué 25% des logements, c'est-à-dire que si demain, il y a un promoteur immobilier qui fait une promotion, 25% des logements doivent être pareils en accession à la propriété. Donc l'idée, c'est de favoriser en fait les Briançonnais, les locaux, notamment les primo-accédants, parce que moi, l'avenir que je veux pour les jeunes, c'est pas qu'ils restent locataires toute la vie. Et c'est facile de dire qu'il faut faire du logement social. Ok, moi, l'avenir que je veux pour un jeune, c'est pas que toute sa vie il soit locataire, c'est qu'il puisse devenir propriétaire. Pourquoi ? Parce que on est issu d'un modèle de société qui est fondamentalement paysan, pas industriel comme au Royaume-Uni par exemple. Et qu'est-ce qu'on faisait avant ? On divisait le champ du grand-père pour que les enfants puissent avoir un petit bout de maison. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de champ. Ou alors il est plus constructible malheureusement, parce que l'État nous a mis toutes ces lois. Donc il faut absolument arriver à permettre aux jeunes générations, à ceux qui vont nous succéder, de devenir propriétaires pour rester ici, s'installer. Et en face, il faut construire, créer de l'emploi. Donc moi je suis persuadé qu'on est en train d'inverser cette tendance, tendance qui est liée, pour répondre très précisément à Jean-Paul, à cette double ciseau de la raréfaction du foncier, de la hausse des prix de l'immobilier, alors même que nous sommes au plein emploi, c'est quand même assez extraordinaire, on est au plein emploi dans le Briançonnais. Donc on a besoin de créer des emplois nouveaux et de diversifier notre économie. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire avec des projets hôteliers qui vont créer beaucoup d'emplois, qui vont entraîner, je le crois, un cercle vertueux aussi économique avec l'ouverture de commerce. Ça, c'est pour solidifier notre économie. Et la politique de diversification que nous menons, déjà sur le sport, parce que je suis persuadé que c'est l'un de nos atouts, et demain aussi sur le fait d'attirer de nouveaux secteurs d'emploi. Moi, je crois beaucoup dans la recherche et développement, parce qu'on n'attirera pas de l'industrie dans le Briançonnais, mais par contre, on peut attirer un certain nombre d'emplois de haute qualification, parce que en l'espace de 5 ans, il ne vous a pas échappé qu'on a aussi 1000 très hauts débits dans toute la fibre. Donc, vous voyez, je suis désolé d'être un peu long, mais c'est un sujet complexe sur lequel on essaie d'avoir une stratégie vraiment avec un spectre très large.
Je pensais avoir en la personne de Jean-Michel Arnaud celui qui répondait le plus longuement aux questions courtes posées, et je pense que Arnaud, tu es pas mal dessus.
Et c'est parce qu'on doit on se rejoint sur nos prénoms et sur nos noms de famille, mais pardonnez-moi, je vous avais précisé dès le début que c'est un sujet très complexe sur lequel je suis heureux de pouvoir une émission un peu longue sur lequel
c'est
on prend
ça,
le temps.
Voilà. C'est pour ça qu'on t'a laissé évidemment développer ce que tu voulais développer.